Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC. Très bon réveil à tous. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. C'est un lapin diplomatique. L'ambassadeur américain a séché la convocation du Quai d'Orsay hier soir. Le ministère réagit et sanctionne ce matin. Poignardé à 15 ans à la sortie de son lycée, un adolescent est entre la vie et la mort près de Lyon. Et puis le coupé vérifié pour lutter contre la fraude. Un projet de loi examiné à l'Assemblée aujourd'hui propose de suspendre les prestations sociales en cas de suspicion.
Le Quai d'Orsay hausse le ton de contre l'ambassadeur américain en France.
Qui ne s'est tout simplement pas déplacé hier soir à sa convocation au ministère des Affaires étrangères. Convocation pour un commentaire sur la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon. La diplomatie française y voyait une ingérence. C'est la deuxième fois que Charles Kushner snob ainsi le gouvernement. Et cette fois, il y a sanction, Sonia Gobry.
Oui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, demande à ce que Charles Kushner ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français. On parle au Quai d'Orsay d'une apparente incompréhension des attendus élémentaires de la mission d'ambassadeur. Mais Paris ne rompt pas non plus tous les canaux de communication. Une source diplomatique assure qu'il peut, bien sûr, continuer à exercer sa mission en France. Les portes du Quai d'Orsay restent ouvertes s'il s'agit, je cite, d'aplanir les irritants. Toujours pour arrondir les angles, cette source ajoute qu'inévitablement, des tensions peuvent survenir dans une relation d'amitié vieille de 250 ans.
Et toujours sur l'affaire Quentin Derenck, après les saluts nazis et les insultes racistes entendues pendant la marche hommage de samedi, deux enquêtes ont été ouvertes hier, notamment pour apologie de crimes contre l'humanité. Notez aussi qu'Emmanuel Macron convoque une réunion ce matin sur les groupes violents. Les autorités ont d'ores et déjà lancé une procédure de dissolution contre deux d'entre eux d'ultra-droite.
Un adolescent de 15 ans est toujours entre la vie et la mort ce matin.
Grièvement blessé au couteau hier après-midi à la sortie de son lycée à Bron, à côté de Lyon, l'agresseur est en fuite. Constance Bostoen, une enquête pour meurtre est ouverte.
Oui, les faits ont eu lieu en plein après-midi, à quelques mètres seulement du lycée professionnel Émile Béjuy à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Il est 15h40 quand les secours sont appelés. Un élève de seconde, âgé de 15 ans, vient d'être poignardé. Il est alors transporté en urgence absolue à l'hôpital. Pour préciser le contexte de cette agression et surtout identifier l'auteur du coup de couteau, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, selon le parquet de Lyon. Ce matin, la police sera présente aux abords de l'établissement. La préfecture du Rhône précise également qu'une cellule d'écoute et un accompagnement psychologique vont être proposés.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC, une enquête qui est bien donc ouverte pour tentative de meurtre. Un gendarme a été blessé hier à Castelnau de Médoc en Gironde, percuté et projeté sur plusieurs mètres par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer, précise le ministre de l'Intérieur, qui précise également que les jours de la victime ne sont pas en danger. En pleine crue, dans l'Ouest, le gouvernement et les collectivités s'écharpent sur la question des digues. Ça fait 2 ans que c'est aux collectivités de mettre en place une taxe pour les entretenir. La ministre de l'Aménagement du Territoire disait hier vouloir réévaluer cette taxe, sa collègue de la transition écologique estimant que certains maires ne l'utilisaient pas assez. Tollé chez les élus, bien entendu, mais au-delà de la politique, il y a un constat. Beaucoup de digues ont fui dès les premières crues ces dernières semaines. C'est le cas pour deux d'entre elles dans le Maine-et-Loire, reportage RMC de Martin Lange.
Il y a 10 jours, la digue de Saint-Jean-de-la-Croix, qu'on appelle ici la levée, a laissé apparaître des fuites. Jean-Luc était aux premières loges.
C'est moi qui ai fait constater que la Loire passait sous la levée.
Résultat, un ordre d'évacuation pour les 900 habitants. Si depuis des travaux ont été entrepris, Jean-Luc déplore un manque d'entretien.
Tous les ans, je prends ma pelle et je bouche les trous du côté de la levée. Les agriculteurs qui étaient là à l'origine, la levée, ils la protégeaient. Et aujourd'hui, tout le monde a les mains dans les poches. Aucun travaux n'est fait.
20 km plus à l'ouest, à Saint-Georges-sur-Loire, la digue a été fermée ce week-end, là aussi à cause de fuites. Mathieu habite sur celle-ci.
On est inquiet forcément. Les arbres, ils ont leurs racines qui se mettent dedans, les animaux, ils creusent leur terrier. Et il faut qu'elles soient mieux surveillées et mieux réparées. Il y a trop de biens et de gens en jeu derrière cette digue.
Depuis 2018, ce sont les intercommunalités qui doivent entretenir les digues. À Saint-Georges, des travaux sont d'ailleurs prévus dès cette année, mais cela a un coût. Marc Schmitter, président de la communauté de communes Loire-Layon-Aubance.
On parle en millions d'euros d'investissement. Donc effectivement, quand on a récupéré cette compétence, on était très inquiets.
Pour financer ces travaux, les intercommunalités peuvent appliquer une nouvelle taxe à leurs administrés, la taxe Gemapi. Instaurée l'an dernier à Saint-Georges et dans les communes environnantes, elle a permis de récolter 700 000 euros.
Le Maine-et-Loire qui, comme la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, sont toujours en vigilance rouge crue aujourd'hui. Je vous signale également que la tempête Nils a fait un troisième mort hier. Un homme a succombé à ses blessures 9 jours après avoir été écrasé par un arbre dans sa voiture. Dernière ligne droite pour la loi fin de vie. Le vote solennel est prévu, sauf retard, ce soir à l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont voté pour pouvoir déléguer l'acte de l'aide à mourir aux soignants. Autre dossier débattu dans l'hémicycle aujourd'hui, le projet de loi contre la fraude sociale et fiscale. Objectif, 2 milliards d'euros d'économies par an, mais des mesures qui divisent. Dans une version durcie par les sénateurs, le texte prévoit notamment de pouvoir suspendre les prestations sociales en cas de suspicion de fraude. Sébastien Krebs.
Oui, et le gouvernement y est favorable, suspendre le versement des allocations le temps de l'enquête lorsqu'il y a une suspicion sérieuse de fraude et des éléments probants. Avec ce texte, les administrations vont mieux partager leurs informations entre elles pour recouper. Permettre par exemple à France Travail de détecter lorsqu'un chômeur perçoit ses indemnités alors qu'il réside à l'étranger, ou encore pour vérifier si des pensions de retraite ne sont pas versées à quelqu'un qui serait décédé. Les mesures ciblent aussi les entreprises pour sanctionner plus rapidement, notamment en cas de travail au noir, avec des saisies, des fermetures administratives, permettre de bloquer immédiatement les comptes de l'entreprise pour éviter qu'elles disparaissent et ainsi mieux récupérer les sommes colossales qui échappent aux caisses de l'État. 20 milliards d'euros estimés en 2024. Le gouvernement espère en récupérer 2 grâce à ces nouvelles mesures.
Sébastien Krebs, chef du service politique de RMC. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d'arriver en Ukraine avec le président du Conseil européen. Elle doit se rendre à une cérémonie de commémoration 4 ans, jour pour jour, après le début de la guerre contre la Russie. Le sport, à présent, et quelque part, les Jeux olympiques d'hiver sont déjà de retour, à peine ceux de Milan terminés. Une grande cérémonie de passation hier, une grande fête à Albertville, une ville haute en 1992, et ce pour donner le cap vers Alpes 2030, Edouard G.
Oui, comme un symbole, Régis assiste au grand retour de la flamme olympique dans sa tenue officielle portée il y a 34 ans en tant que volontaire.
On est très ému que les Jeux reviennent après Albertville, reviennent dans les Alpes 2030. Formidable. Que les gens aient de l'enthousiasme, c'est magnifique.
Un enthousiasme que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pancook, entend prolonger maintenant que tout commence dans les Alpes françaises.
Revenir ici aujourd'hui, de considérer que maintenant la trajectoire est devant nous, évidemment que cette symbolique, elle est très très importante.
Cette image rayonnante, une marque déposée par une discipline, le biathlon, avec sa chef de file, Julia Simon.
Ouais, la portée, on commence à s'en rendre compte. En fait, on était dans notre cocon en Italie, on se rendait pas trop compte des choses. C'est vraiment génial de pouvoir faire partie de cette équipe-là, de voir l'engouement que le biathlon apporte auprès des jeunes, et j'espère que ça durera encore très longtemps.
Un quatrième passage des Jeux en France dans 1400 jours, désormais avec comme objectif celui de battre le record de Milan Cortina et ses 23 médailles décrochées par la délégation tricolore, saluée hier soir par une Marseillaise entonnée par les 6500 spectateurs présents à Albertville.
Et puis un mot de football, c'est le retour de la Ligue des Champions ce soir. Les barrages retour avec d'abord à 18h45 Atlético Madrid, Club Bruges. Et puis à 21h, 3 matchs, Newcastle-Karabakh, Inter Milan-Bodo Glimt et Bayer Leverkusen Olympiakos. Ce sera à suivre évidemment sur RMC.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h08 sur RMC. Et vous êtes nombreux à réagir à cette information, l'augmentation de la consommation de drogue partout en France et chez tous les Français, avec en particulier notamment l'ecstasy et la MDMA. Bonjour Chris. Chris, vous nous appelez au 32-16 depuis les Landes. Vous êtes au volant là, Chris, soyez prudent.
Mais ça va, je suis sur mes petits chemins, tranquille.
Bon, tranquille. Chris, vous en avez beaucoup consommé, vous, de la drogue ?
Ouais, j'en ai eu consommé quelques fois. Il n'y a pas que la cocaïne, faut arrêter de généraliser sur la cocaïne. Il n'y a pas que ça qui tourne, c'est divers et varié, en fait. Moi, j'étais plus cocaïne, un petit peu d'LSD, puis un petit peu d'MDMA de temps en temps en soirée. Bon voilà, après dans le sud-ouest, faut savoir une chose, c'est que c'est monnaie courante, ça pullule, c'est pas nouveau en fait, hein, ça part du consommateur de juste majeur au consommateur de 70 balais quoi, c'est pas quelque chose en fait chez nous qui est vraiment catégorisé.
Pourquoi
sur une tranche d'âge.
Pourquoi
en fait,
parce que vous êtes à côté de l'Espagne,
L'Espagne, donc au final aujourd'hui nous aller chercher de la cocaïne en France sur Biarritz, admettons. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, je dis Biarritz, pourquoi Biarritz ? Parce que tout ce qui concerne Biarritz, Hossegor, tout ce secteur sud-land, en fait, est voué à la fête. Hein. Je veux dire, nous, après, on est natifs, nous, natifs de la côte, on a toujours
pour
connu
vous,
ça.
Pour vous, c'était associé... Alors, j'en parle au passé, parce que Chris, vous venez de dire que vous étiez plutôt un ancien consommateur.
Ah, moi, je suis complètement ancien consommateur. J'ai mis ça de côté dans ma vie, largement, et en long et en large, et en travers.
Qu'est-ce qui faisait que vous aviez basculé dedans, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous en êtes sorti?
Les rencontres, les connaissances, les gens, c'est plus de l'expérience au final qui s'est accrue sur du long terme. Au final, nous chez nous, c'est tout le monde qui en prend. Hein, donc,
c'est quoi? C'est en soirée? C'est en soirée? C'est quand vous êtes avec les copains?
En soirée, complètement. Ben en soirée, beaucoup en soirée. Hein. Il y a des patrons qui en font même la pub. Il y a des, je vais pas citer de nom parce que ça serait
des
pas
patrons
correct,
dans les bars, dans les boîtes.
Mais complètement, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les restaurants, il y a des employés, des saisonniers qui auraient le courage de témoigner aujourd'hui et qui diraient bien sûr que sur Biarritz, il y a des patrons qui en font la promotion.
Est-ce qu'aujourd'hui vous le regrettez, Chris, ou est-ce que juste vous êtes passé à autre chose?
Non, je le regrette pas forcément. Je le regrette pas. Pourquoi? Parce que c'était une expérience. Ça m'a forgé dans le temps à me dire qu'en fait c'est nul. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Aujourd'hui, vous allez dans une soirée quelconque, techno ou autre, sur la côte. En début de soirée, vous avez des personnes. À la fin de la soirée, vous avez que des zombies. C'est nul. C'est vraiment nul. Et au niveau des, en fait, ça touche les hommes. Les hommes poussés à l'adrénaline complète, avec le comportement déjà de global du Sud-Ouest qui est assez chaud, se comporte d'une manière avec les femmes qui est complètement mais atroce. Ouais. Vous avez juste à voir, nous chez nous, les fêtes de Bayonne, on les faisait quand on était gamin, ça avait quelque chose de symbolique, quelque chose qui était beau. Aujourd'hui, vous faites les fêtes de Bayonne, vous allez trouver à 2h du matin plus de cocaïne que vous allez trouver de la bière. Ouais. Les gens vont faire moins la queue pour aller chercher la cocaïne que pour aller chercher des bières.
Votre témoignage, il est vraiment très utile. Merci beaucoup d'avoir partagé. Chris, soyez prudent au volant. Merci en tout cas d'avoir appelé et de nous avoir dit à la fois comment vous étiez rentré dedans et puis le regard que vous portez aujourd'hui. Il est 7h12 sur RMC. Cette question, au 1er mars, si vous passez par la case hôpital, eh bien, ça vous coûtera plus cher. Désormais, le forfait journalier va augmenter, la part remboursée par la Sécu va diminuer. Le gouvernement dit qu'il cherche 400 millions d'euros. Bonjour Dominique Corona. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNSA, du syndicat UNSA. Votre parti pris ce matin, c'est que, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ce sont les plus fragiles qui vont encore payer la facture. Vous nous le dites dans un instant, 7h13.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h16 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Le gouvernement dit qu'il faut trouver 400 millions d'euros pour la Sécu. Bonjour Dominique Corona, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNSA, le syndicat, et ces 400 millions, donc, le gouvernement, il voudrait aller les chercher dans les poches des patients. Divers forfaits hospitaliers vont augmenter le 1er mars, c'était pas tout à fait prévu. Et votre parti pris, c'est que ce sont les plus fragiles qui vont en souffrir. D'abord, Dominique Corona, de quel forfait on parle et de combien ça va augmenter ?
Alors, on va parler du forfait urgence qui a été créé, lui, en 2022, qui va passer de 19,61 € à 23 €, pardon. Et le forfait hospitalier qui, lui, effectivement, va passer à 23 €.
En psychiatrie, c'est de 15 à 17 €. Oui. Bref, c'est 3-4 € un peu partout sur chacun de ces forfaits. Oui. Jusqu'à présent, c'était pris en charge par la Sécu. Là, c'est quoi ? C'est la mutuelle ?
C'était pris en charge par la mutuelle, sauf que pour ça, il faut avoir une mutuelle. Et le problème, c'est bien là que le bât blesse, entre guillemets, madame de Malherbe, c'est que quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de mutuelle. Aujourd'hui, vous avez déjà près de 2,5 millions de personnes qui n'ont pas de mutuelle. Et quand vous prenez les personnes les plus faibles, on est à 12% de la population des plus précaires qui n'ont pas de mutuelle. Ça veut dire que quand vous êtes précaire, vous allez à l'hôpital, vous devez payer vous-même ces forfaits. C'est impossible. C'est-à-dire que déjà, vous êtes en rupture de soins. En général, ce sont des gens qui sont extrêmement précaires, qui n'ont pas de médecin traitant, donc qui n'ont que l'hôpital pour se faire soigner. Et on va leur dire, eh bien, vous allez payer le forfait urgence et le forfait hôpital. C'est pas acceptable. Il y avait d'autres solutions.
Il y avait d'autres solutions, lesquelles ?
Ah ben, je vais vous en donner une. Hein. 71 milliards d'euros d'exonération de cotisations pour toutes les entreprises. Pas de conditions. ni sociale, ni environnementale. Très franchement, il y a des entreprises qu'on n'a pas besoin d'aider en France. Hein. Il y a des entreprises, par contre, on devrait aider beaucoup plus. 71 milliards d'euros, 72 milliards d'euros par an, c'est plus que le budget de l'armée. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc vous imaginez bien que il n'y a pas d'argent magique. C'est le MEDEF qui le dit. Ils ont bien raison. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille regarder de ce côté-là.
Pour vous, clairement, il y a des patients qui vont finir par renoncer à se soigner.
Oui. Oui. Et vous c'est pour ça que je pousse un coup de gueule. Nous poussons à l'UNSA un coup de gueule. Parce que oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est pas moi qui le dis, l'adresse, qui est les statistiques d'études du ministère de la Santé, a sorti une étude la semaine dernière pour indiquer que quand il y avait des remboursements, ça pesait deux fois plus sur le budget des plus précaires. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Et la réponse du ministère de la Santé, c'est justement d'augmenter les déremboursements ou d'augmenter les forfaits pour les plus précaires. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Et ça aussi, c'est un problème politique. On ne peut pas d'un côté sortir une étude qui dit ça, qui est chiffrée, et de l'autre côté dire, ah ben, la réponse, finalement, je vais accentuer ça. Et là, il y a un problème politique quand même.
Il y a un problème politique, c'est un choix politique. D'ailleurs, ces 400 millions, en réalité, il n'y a pas eu tellement de débat à l'Assemblée nationale dessus. On a tellement parlé d'autres économies ou hausse des recettes que finalement, c'est passé un tout petit peu à la trappe.
Ah ben
est-ce que vous avez même l'impression qu'au fond, ils ne voulaient pas en parler et puis là, on se retrouve devant le fait accompli?
Ah ben écoutez, oui, exactement, parce que dans le projet de loi de finances et de sécurité sociale, nous n'en avons pas entendu parler. Et là, c'est un décret. Donc un décret, en plus, ça passe sous le radar de la représentation nationale.
Ça n'a pas été débattu politiquement.
Débattu ni politiquement, ni même avec nous. Donc moi, je vous le dis, je pense que cette mesure doit être retirée immédiatement parce qu'il y a d'autres solutions. Et donc, on ne peut pas accepter que les plus faibles sont ceux qui vont encore le plus morfler.
Vous demandez le retrait de ce décret, de cette mesure. La conséquence, parallèlement, c'est que les mutuelles vont encore augmenter, alors que c'est un peu le vase communicant entre la Sécu et la mutuelle. Vous nous dites qu'il y a déjà un grand nombre de Français qui ont besoin de mutuelles, qui n'en ont pas aujourd'hui. Ça ne va être que pire.
Et puis, de notre côté, on parle beaucoup du coût du travail en France. Les mutuelles sont payées pour partie par les employeurs. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le coût du travail va aussi s'y renchérir. Donc, c'est perdant sur toute la ligne, cette histoire. C'est perdant sur toute la ligne. C'est perdant pour le pouvoir d'achat des Français. C'est perdant pour, effectivement, le coût du travail. Et c'est perdant aussi pour les plus précaires. Moralité, ce n'est pas une bonne solution. Je vous dis, d'autres solutions existent. Et donc, il faut y aller, mais il faut avoir un peu de courage politique.
Merci beaucoup Dominique Corona d'avoir défendu votre parti pris ce matin. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UNSA. Il est 7h21 sur RMC. On va remonter le temps parce que l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, le Mexique est à feu et à sang sur fond de guerre entre l'État et l'un des cartels de la drogue les plus puissants du monde.
Oui, les cartels surpuissants. Tout ça a commencé il y a 50 ans avec une Colombienne, la reine de la coca, et elle envoyait de la cocaïne dans des soutiens-gorges, figurez-vous. C'est elle qui a tout appris à Pablo Escobar.
Vous nous le racontez dans un instant, ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On remonte le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Arthur, la France appelle ses ressortissants au Mexique à la plus grande prudence et à rester confinés. Depuis l'élimination d'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde, Nemesio Oseguera, dit El Mancho, le pays est traversé par des affrontements extrêmement violents.
Oui, entre d'un côté le CJNG, le cartel Jalisco Nouvelle Génération, c'était le cartel dirigé par le fameux El Mancho, et de l'autre, les forces gouvernementales mexicaines qui essayent tant bien que mal de rétablir leur autorité. Et si c'est aussi violent, eh bien c'est parce que le CJNG dispose en fait de moyens considérable, hein, notamment d'une armée privée suréquipée, surpuissante, qui a même des canons. Hein. C'est un véritable État dans l'État.
Depuis quand les barons de la drogue sont en capacité de défier carrément des États, en fait?
Alors en fait, ça a commencé dans les années 70. Hein, et la première à avoir professionnalisé le trafic de stupéfiants à grande échelle en Amérique du Sud, c'est une femme colombienne. Son nom, c'est Griselda Blanco. On l'a surnommée d'ailleurs la reine de la coca, hein, ça fait très peur. Une référence à sa spécialité, le trafic de cocaïne. Dans les années 70, elle industrialise son business en exportant des tonnes de coke vers les États-Unis, notamment vers la ville de Miami.
Elle avait des méthodes révolutionnaires.
Oui, des méthodes révolutionnaires qui concernaient les gaines et les soutiens-gorges. Je m'explique, pour transporter de la drogue, la reine de la coca avait donc des passeuses, hein, ce qu'on appelle des mules dans le vocabulaire des trafiquants. Et ces mules, elle va les équiper de soutiens-gorges et de gaines avec des poches spéciales dans la doublure du tissu. Et là-dedans, on planquait de la cocaïne. En cas de contrôle, évidemment, c'était ni vu ni connu. Et la reine de la coca ne manquait pas non plus d'humour, puisqu'elle avait appelé un de ses fils Michael Corleone, du nom du héros du film Le Parrain, qui est joué par Al Pacino.
Très assumé. Donc voilà. Cette femme, elle a aussi été le mentor d'un autre grand parrain de la mafia.
Et oui, puisque c'est elle qui a formé Pablo Escobar, hein, la légende du trafic de drogue, lui aussi colombien. Son truc, c'est d'abord le trafic de cocaïne, il va ensuite se diversifier. Braquage, kidnapping, corruption. Et Escobar devient le criminel le plus riche de tous les temps. À la fin des années 80, sa fortune est estimée à 30 milliards de dollars. À son plus haut niveau, le cartel de Pablo Escobar, le cartel de Medellin, exportait 80% de la cocaïne mondiale, avec 15 tonnes par jour juste pour les États-Unis. Et tous les moyens étaient permis, hein, puisque figurez-vous qu'Escobar avait même un sous-marin pour expédier sa drogue. Bref, une toute-puissance qui finira par s'arrêter, hein. En 1993, il est abattu par la police colombienne.
Depuis, il y a eu donc le mythique El Chapo.
Et oui, Joaquin Guzman, de son vrai nom El Chapo, ça veut dire petit en espagnol. Il faisait 1m68, mais ça ne l'a pas empêché de faire régner la terreur au Mexique, à la tête du cartel de Sinaloa. Et à part le trafic de drogue, la spécialité d'El Chapo, c'était l'évasion. Puisqu'en fait, il arrivait toujours à s'échapper de prison. Alors le plus bluffant, c'était en 2015, alors que sa cellule était surprotégée avec des caméras de surveillance partout, des gardiens partout. Eh bien, il se fait la malle. Comment ? Il y avait un tunnel en dessous de sa cabine de douche qui reliait directement sa cellule à l'extérieur de la prison. Ça avait bluffé tout le monde. Finalement, il est rattrapé en 2016 avant d'être condamné à la perpétuité en 2019.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Si vous voulez réécouter Arthur à tout moment, vous le retrouvez en podcast ou sur le site rmc.fr. Et à 7h25, on vous offre vos vacances toute la semaine. Et c'est avec notre plus grand plaisir qu'on vous offre un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et les hôtels Bellembrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations. Mais j'ai envie de vous dire que le plus fort est à venir, puisque Bellembrun s'occupe des enfants, des activités, des repas. C'est le tout compris premium. J'avoue que ça nous fait rêver avec Mathieu. On viendrait bien avec vous. En tout cas, pour remporter ces vacances Bellembrun, vous envoyez dès maintenant vacances au 7-32-16, vacances au 7-32-16, et le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellembra. Bellembra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Nous sur RMC, Apolline Matin, il est 7h26, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On les trouve désormais partout, les petits comprimés d'ecstasy et de MDMA. Il s'en est écoulé plus de 65 millions en France en 2023. Une explosion de la consommation. Le divorce, pas complètement consommé entre socialistes et insoumis. C'est une information RMC. Des alliances pour les municipales sont toujours d'actualité dans une trentaine de villes. Et ce, malgré les appels à la rupture après la mort du jeune identitaire Quentin Derenck. Et puis, il va faire plus de 20 degrés cet après-midi sur une large partie du pays. Un redout qui devrait remonter le moral de plus d'un après les records de pluie de ces dernières semaines.
La cocaïne est-elle en train d'être détrônée en France ?
On a beaucoup parlé de son explosion dans le pays. Les saisies ont d'ailleurs connu un record historique en 2024. Mais ce qu'on constate dans le dernier bilan annuel de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, c'est la hausse spectaculaire de la consommation d'ecstasy et de MDMA, plus 480% en 13 ans. Des drogues de moins en moins chères et de plus en plus faciles d'accès, Célestin Bougère.
Pour Martin, la consommation d'ecstasy a commencé par une soirée entre amis.
La première fois, c'était il y a 3 ans, pendant un festival de musique l'été.
Depuis, le chargé de communication de 28 ans en consomme de temps en temps, toutes les 2 semaines au plus fort de l'été, lorsque les soirées sont plus nombreuses.
Il y a un sentiment de légèreté, je trouve. On est connecté à la musique, il n'y a plus de problème.
Vous voyez que ça augmente, vous voyez dans les soirées qu'il y en a de plus en plus.
Depuis 2-3 ans, il n'y a pas une fois où on ne propose pas de l'ecstasy, quoi. Et je trouve ça extrêmement simple de s'en procurer.
Certains consommateurs comme Martin n'ont pas conscience des risques, même si les lendemains de soirée sont parfois difficiles.
Le lendemain matin, il y a un peu un côté je suis naze, et puis on se remet en question sur tout, sur sa vie perso, sentimentale, professionnelle.
À court comme à long terme, ces cachets représentent un danger pour l'addictologue Géraldine Talbot.
Des phénomènes de dépendance, on a du mal à se passer de la substance, on n'a pas l'impression qu'on passe une bonne soirée si on n'en a pas. On sait aussi qu'il y a des phénomènes d'atteinte de la mémoire, de concentration, qui peuvent aussi survenir chez les personnes qui consomment régulièrement ces substances.
En France, le chiffre d'affaires généré par la vente illicite de MDMA est estimé à 312 millions d'euros en 2023.
Il est 7h32 sur RMC, 10 jours après le lynchage à mort du jeune identitaire Quentin de Ranque, sa famille dénonce la récupération politique et les débordements au cours de la marche hommage organisée samedi. Deux enquêtes ont d'ailleurs été ouvertes, l'une pour apologie de crimes contre l'humanité, l'autre pour injures racistes et homophobes. Une affaire qui continue d'agiter la classe politique avec chaque jour de nouveaux appels à la rupture avec les insoumis proches de la jeune garde, dont plusieurs anciens militants ont été mis en examen dans ce dossier. Des appels en direction des socialistes accusés par certains macronistes d'avoir maintenu des centaines d'alliances en vue des municipales. Un chiffre qu'RMC a vérifié et qui est en réalité bien moindre, Cyprien Pézril.
Des candidats PS et LFI sur les mêmes listes, les mêmes affiches au premier tour, il y en a, oui. À Chartres, Corbeil-Essonnes, Draguignan, Niort ou encore à Maison-Laffitte. Au total, au moins une trentaine de villes concernées selon notre calcul. Et ce alors que le Parti Socialiste ne cesse de jurer qu'il prend ses distances avec la France Insoumise. Pourtant, il n'y a aucune interdiction de s'allier à l'échelon local. L'illustration d'un deux poids deux mesures, s'agace un sénateur PS. Chez moi, je soutiens un candidat LFI à visage humain, reconnaît un autre baron local socialiste. Ces listes d'union, elles sont en préparation depuis des mois, face souvent à la difficulté de trouver suffisamment de volontaires. Des liens amenés à devenir encore plus visibles au second tour dans des villes symboles, Toulouse, Amiens ou peut-être Lyon. Un proche du patron du PS l'assume, les victoires dépendront des fusions.
Lui aimait raconter ses anecdotes de prof d'anglais sur les réseaux sociaux. Monsieur le prof, alias William Lafleur, a rendez-vous avec le tribunal correctionnel de Toulouse aujourd'hui pour son procès en diffamation après la parution en 2023 de son livre « L'ex plus beau métier du monde », livre dans lequel l'ancien fonctionnaire de 37 ans dénonce les conditions de travail des enseignants et notamment le comportement d'un inspecteur, Louis Salé.
Il y a deux ans, lorsqu'il apprend qu'une plainte est déposée contre lui, William Lafleur n'en revient pas.
L'objectif de ce livre, c'était de parler de la défaillance d'un système. Mais je n'avais pas du tout l'intention de pointer du doigt cet inspecteur, de l'insulter de quelque manière que ce soit.
Dans son livre, l'ex-professeur rapporte que l'inspecteur ne lui a pas dit un seul mot positif lors de sa visite. Il n'y a eu aucun échange, juste un pilonnage à sens unique, écrit-il. Une pratique qu'il qualifie d'humiliante, d'après lui, assez courante.
Ce que je décris est terriblement banal. Donc moi, j'ai émis une critique plutôt tiède hein, de cette inspection en disant, ben voilà, c'est une inspection assez classique où qu'on va ressentir comme très infantilisante, où on va pas ressortir vraiment grandi. Et la réponse, c'est de porter plainte. Je trouve ça un peu lunaire.
L'inspecteur réclame que les passages où il s'estime diffamé et identifiable soient retirés d'éventuelles prochaines éditions. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas brisé les Ukrainiens, ce sont les mots ce matin de leur président Volodymyr Zelensky, 4 ans jour pour jour après le début de l'invasion de la Russie. Il est 7h35 sur RMC et 3 départements sont toujours en vigilance rouge au cru ce matin, 2 en orange. Mais le soleil fait son grand retour sur une large partie du pays avec une forte hausse des températures qui certes va permettre d'accélérer la sèche des villes inondées, mais qui n'est toujours pas normal pour la période. On parle de températures 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Mais ces jardiniers amateurs se réjouissent après des jours interminables de pluie, Amélie Courtet.
Dans son potager.
Ça, c'est des fraises.
Au milieu d'un grand jardin partagé.
Ça va commencer, ça, c'est des raisins.
Latifa, retraitée, enfile ses gants et arrache les mauvaises herbes.
Vous l'attendiez, le retour du beau temps?
Bien sûr, j'ai pris pour qu'il vienne au soleil, pour que je vienne travailler ici. Parce que j'aime bien jardiner. Je suis heureuse quand je viens ici.
Heureuse de remettre enfin les mains dans la terre après plusieurs semaines de pluie.
Des fois, on pouvait même pas rentrer dans le jardin tellement il y avait d'eau. On s'enfonçait, quoi.
Ses bottes aux pieds, José sème tomates, poivrons quelques mètres plus loin.
Donc là, les 15-20 degrés annoncés.
C'est royal. La météo, ça va donner un coup de boost, là. Ça pousse à une force, c'est incroyable. On a une dizaine de jours d'avance.
C'est la chaleur, il n'y a pas eu vraiment de froid. Hein.
Rajoute Daniel, voisin de potager, inquiet face aux températures anormalement élevées, s'il fait trop chaud.
Il n'aura pas le temps de pousser correctement que tout va mourir. Hein.
Obligé de s'adapter face au changement climatique, mais sans renoncer.
Voir la nature pousser et le manger, il n'y a rien de tel.
Tellement passionné qu'il donne rendez-vous dans 3 mois.
On va se mettre sur les tables, là-bas, puis on cassera la croûte. Hein. Les salades seront pousser, il n'y a peut-être pas encore de tomates.
Car ici, ce qu'on cultive, c'est avant tout le partage.
Et puis le quintet, c'est à Cagnes-sur-Mer.
À 13h55, et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Prince de Montfort. L'outsider, c'est le numéro 14, Wimagaté.
Oui, Magaté, c'était le journal des Lys d'Anjan. Il est 7h37. On part dans les Alpes de Haute-Provence à Anneau. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Héloïse, vous êtes boulangère et vous vouliez nous dire que vous avez réussi à arrêter la drogue, mais vous étiez tombée dedans. Hein.
Oui, je suis tombée dedans comme on tombe en religion, si je peux m'exprimer ainsi.
À ce point-là, c'est-à-dire, en fait, donc vous l'avez l'information, hein, ce matin, on le disait, l'explosion de la consommation de drogue en France, et en particulier de l'ecstasy et de la MDMA. Mais dites-nous alors ce qui s'est passé, vous, Héloïse.
Ben, en fait, quand j'étais jeune, on m'a fait goûter, et j'ai aimé, et je devais avoir 13 ans. Et depuis mes 13 ans, ben, j'ai pas arrêté jusqu'à à peu près mes 50 ans. Mais pas arrêté du tout.
Pas arrêté du tout.
Quand je déménageais, la seule chose qui comptait, c'était de savoir où j'allais pouvoir me fournir. Quoi. Chaque fois que j'ai déménagé, que ce soit Paris, j'ai vécu au Maghreb aussi un petit peu. Enfin, partout où j'ai été, là, ma seule obsession, c'était de savoir comment j'allais faire. Et je pouvais faire... par exemple, là, j'habite à Nantes, il faut que je traverse toutes les montagnes. Il fallait que je traverse toutes les montagnes pour aller jusqu'à Nice. Pour aller. C'est une obsession.
C'était une obsession. Vous preniez quoi?
Alors j'ai pris shit, beaucoup, et ouais. Coke. Et puis plus ça allait, avant c'était 90 ou 100 euros le gramme, il y a 30 ans. Ouais. Maintenant le gramme il est à 40 euros, au moulin il est à 40 euros. Mais vous pouvez prendre des toutes petites capsules à 10 euros, à 20 euros, à 40 euros.
Donc en plus il n'y avait plus la barrière à ce moment-là, effectivement de l'argent. Héloïse, vous êtes boulangère, vous avez quand même toujours réussi à continuer à travailler? Ou est-ce que parfois ça a été compliqué?
Non. Par contre, j'ai toujours réussi à aller travailler. Mais des petits boulots. Avant, je travaillais dans les bureaux. J'étais chargée de clientèle. J'étais directrice. Enfin, je m'occupais de tout ce qui était sur la base ISO 9002 à l'époque. Je parle de ça il y a 25 ans.
Ouais.
Et puis là, j'ai pas tenu le rythme. Parce qu'il faut aller en présentation client, il faut les machins. Donc, je n'ai fait que régresser au niveau...
Et ça, vous pensez que c'est la drogue?
Oui. Oui, absolument.
Vous m'avez dit que vous aviez arrêté depuis 2 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui, Héloïse?
52,
donc vous avez arrêté à 50 ans. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté et est-ce que vous y arrivez là? Comment vous faites pour tenir?
Pourquoi j'ai arrêté à 50 ans? Parce que 50 ans, encore aller dans les cités pour aller chercher sa cam. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, je me suis regardée dans un gars, j'ai trouvé que c'était pitoyable. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Et qu'il fallait vraiment que j'arrête. Alors, comme un pansement qu'on enlève, comme je disais au monsieur, j'ai regardé le dernier bout de shit. Voilà, j'ai posé le dernier bout de shit et je suis partie. Et j'ai laissé ma vie derrière moi à ce moment-là. J'ai quitté mon mari, j'ai quitté la drogue, j'ai quitté tout.
Vous avez quitté tout. Donc, en fait, quand vous dites rentrer en religion ou sortir, effectivement, il y a ce côté total. Aujourd'hui, vous le regrettez pas?
Ah, je regrette parce que j'ai 4 enfants. Donc les 3 derniers, nickel. Mais la première, elle a 31 ans maintenant. J'ai honte de le dire, mais j'ai vraiment pas été une bonne mère avec elle. Enfin, pas une bonne mère, je l'ai pas battue ou ce genre de choses. Mais j'étais dans la négligence, quoi. Non,
c'est dur. C'est dur. Ouais. Courage, ouais, tenez bon.
Ouais, je lis tous les jours.
J'imagine, Héloïse. En tout cas, on est là. Merci d'avoir témoigné ce matin. N'hésitez pas à nous rappeler. Justement, quand vous avez besoin de parler, on est là aussi. On est là aussi pour vous écouter et entendre ce témoignage et le partager avec tous les Français ce matin, qui effectivement, comme vous dites, à un moment, on m'en a présenté et voilà la bascule. Et à 50 ans, finalement, vous avez réussi à y mettre fin, mais avec quelques regrets. Merci en tout cas, Héloïse, d'avoir témoigné. Bon courage à vous. On est là, 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le vote solennel sur la fin de vie, ça pourrait être dès aujourd'hui ou au plus tard demain. Bonjour Jonathan Denis.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Un amendement adopté à une voix près permet finalement à nouveau aux patients de déléguer l'administration de la substance létale à un soignant. Ça fait débat. Vous nous le dites dans un instant. Est-ce que à vos yeux, ce texte est toujours équilibré? Vous nous répondez et n'hésitez pas, vous aussi, au 32-16 à venir interpeller Jonathan Denis. Il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé. Le vote solennel à l'Assemblée nationale sur le texte relatif aux soins palliatifs et à la fin de vie aura lieu soit aujourd'hui ou au plus tard demain. Ça y est, c'est le jour J. Bonjour Jonathan Denis. Bonjour. Vous êtes le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Un amendement adopté à une voix près hier et on le sent bien, c'est extrêmement tendu juste avant ce vote solennel. Un amendement qui permet désormais à nouveau aux patients de déléguer l'administration de la substance létale à un soignant.
soignants. La question c'est, est-ce que c'est de l'euthanasie, est-ce que c'est du suicide assisté ou est-ce que désormais ce sont les deux? Est-ce qu'à vos yeux ce texte est toujours équilibré?
Alors je vais vous répondre sur l'équilibre du texte, mais vous avez soulevé un point important. Vous avez dit le vote aura lieu aujourd'hui ou demain. Il faut regarder les choses en face. On fait face à une obstruction parlementaire inadmissible de la droite parlementaire et de l'extrême droite. Quand vous regardez ces milliers d'amendements et ces discussions qui ont duré jusqu'à hier minuit, ces amendements n'ont pas pour but d'améliorer le texte ou de restreindre le texte. Ils ont pour but d'empêcher un vote. Ils ont pour but tout simplement d'empêcher un nouveau droit aux Français de disposer d'eux-mêmes face à la maladie et face aux souffrances insupportables. Vous me posez la question sur l'équilibre du texte. Nous sommes sur un texte totalement équilibré. Pour vous répondre très précisément, moi j'assume les mots. On parle d'aide à mourir, d'aide active à mourir. L'auto-administration de la substance létale, ça s'appelle le suicide assisté. L'administration par un médecin ou par un infirmier, ça s'appelle l'euthanasie. Dans ce texte, aujourd'hui tel qu'il est présenté, effectivement, les deux seront possibles. Ça s'appelle la liberté de choix du soigné, mais il y aura également, évidemment, la liberté de conscience du soignant dans ce texte. L'un ne peut pas aller sans l'autre.
Alors, les opposants, et effectivement, c'est vrai qu'ils sont nombreux aujourd'hui, j'ai l'impression presque davantage qu'au début de ce débat, ils disent qu'il y a une forme de dérive désormais, et certains soignants disent « moi, je n'ai pas choisi ce métier ». Pour administrer la mort.
Mais je rassure tous ces soignants qui sont opposés. Rien ne les obligera demain à devoir accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. Il faut bien comprendre que c'est une liberté, c'est un nouveau droit. Ce n'est pas une obligation comme dans toutes les questions de société qui ont pu être traitées et ces nouveaux droits qui ont pu être ouverts. Je pense à la question de l'IVG, je pense à la question du mariage pour tous. On n'a obligé personne. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous parlons de personnes qui sont atteintes de maladies graves et incurables avec un engagement du pronostic vital à un stade avancés au terminal, qui ont des souffrances qui leur sont insupportables ou qui sont réfractaires et qu'ils doivent manifester leur volonté de façon libre et éclairée. On parle bien de ça. Aujourd'hui, comment on peut les accompagner ? La Convention citoyenne a rendu son avis il y a maintenant 3 ans. Elle a dit une chose simple que nous disons finalement en majorité depuis des années. La loi Claeys-Leonetti permet de répondre à certains cas quand l'engagement de votre pronostic vital est à quelques heures, quelques jours. Que fait-on pour toutes ces autres personnes qui ne souhaitent pas vivre la phase agonique ? Aujourd'hui, elles sont abandonnées, elles demandent ce nouveau droit. Il serait temps que ce nouveau droit soit ouvert puisqu'on en discute depuis quand même 1978.
On en discute effectivement depuis très longtemps, mais enfin, c'est pas une question banale, la question effectivement de la mort au fond. Il y a face à vous notamment Philippe Juvin qui monte au créneau, qui est à la fois député et médecin. Lui, il dit attention, désormais c'est surtout les riches, alors sauf à des cas évidemment de maladies, la maladie de Charcot en particulier, mais il dit au fond les riches auront les moyens de soulager leurs souffrances, ils auront les moyens d'avoir des soins à domicile. Il dit le problème c'est pour les plus modestes qui eux au fond auront de moins en moins accès à des soins de qualité et pour qui l'accès à la mort sera au fond un soulagement. Qu'est-ce que vous lui dites?
Alors c'est pas parce que monsieur Juvin est médecin qu'il dit beaucoup de vérité. Faut pas oublier que quand je vous parle d'obstruction parlementaire, il y a quand même que 8% des Français qui sont opposés à cette loi. Donc on les entend effectivement de plus en plus, mais ils ne sont absolument pas majoritaires, ils sont ultra minoritaires. Maintenant, monsieur Juvin se trompe, je me demande parfois dans quel monde il vit. Aujourd'hui, les riches, ils ont déjà accès à l'aide active à mourir. Ils vont en Suisse quand ça coûte 12 000 euros. Ce n'est pas les pauvres qui y vont. Quand ils nous parlent, par exemple, dans l'Oregon, où dans l'Oregon, ce seraient les plus pauvres qui auraient accès, mais qu'ils se renseignent sur la loi américaine, ce ne sont pas les plus pauvres qui ont accès, ce sont des personnes âgées qui sont généralement les plus riches puisqu'elles ont une couverture médicale. Donc non, cette loi du droit à mourir dans la dignité, elle ne va pas en contradiction avec le droit à vivre dans la dignité, le droit
vous
à être accompagné selon ses volontés.
Ce sera pour une petite minorité, oui. Pour ceux qui ont vraiment besoin. Quand vous regardez les chiffres au Canada par exemple, oui. Où désormais 8% des morts sont morts de l'euthanasie.
Oui.
Est-ce que ça ne vous paraît pas inquiétant?
Mais ça pourrait être 15%, 20%, ça répond à quoi? On est en train de parler de personnes qui vont mourir. On n'est pas en train de parler de tuer des personnes âgées ou des personnes qui seraient avec une dépression suite à un chagrin d'amour. On parle de personnes qui vont mourir. Donc oui, on sait bien que ça concernera 2 à 3% des décès. Il faut le ramener aussi au nombre de décès. Mais il suffirait d'une seule personne qui demanderait à être accompagnée
dans
le cadre
de l'accès. Mais le Canada disait que ce sera 2 à 3%. C'est finalement aujourd'hui 8.
Mais je vous dis, demain, ça pourrait être 10. En quoi ce serait choquant? On parle de personnes qui vont mourir et qui ne trouvent pas de réponse aujourd'hui. Voilà, dans cet accompagnement, on parle de maladies incurables, graves et incurables, avec des souffrances réfractaires. Vous savez, je pense que M. Juvin, en tant que médecin, mais veut tout simplement pouvoir garder un pouvoir, ce pouvoir de décision, ce paternalisme médical qu'on nous sert depuis des années. Et il y a un autre pouvoir qui est très présent, on le voit dans les amendements qui sont présentés par la droite et l'extrême droite, c'est le pouvoir religieux. C'est vraiment cette interdiction aux Français de disposer d'eux-mêmes. Ils ne seraient pas assez malins, assez intelligents pour comprendre un texte ou pour savoir ce qu'eux-mêmes décident face à la maladie ou aux souffrances. Je ne les juge pas, ne les jugeons pas et acceptons d'entendre cette parole même face à la maladie.
Jonathan Denis, vous êtes le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et évidemment extrêmement favorable, on l'a bien entendu, à ce texte. La réponse, ce sera aujourd'hui ou plus vraisemblablement demain avec le vote solennel à l'Assemblée nationale. Il est 7h51 et la voix de gauche est entrée dans ce studio. Salut Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, on parle de l'affaire, on parle et on reparle de l'affaire Epstein. Vous réclamez un grand nettoyage.
Oui, il faut une enquête et une enquête jusqu'au fond parce que pour l'instant, les complotistes se régalent.
Merci, vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche qui veut faire le grand nettoyage avec l'affaire Epstein. Mais d'abord, le bonus, Mathieu. On écoute un peu de Daft Punk ce matin.
Ouais, déjà pour se faire plaisir, bah, Pauline. Déjà, ouais. Mais aussi parce qu'on va retrouver la moitié du duo. Thomas Bangalter, un des deux génies casqués du groupe électro, séparé depuis 2021. Thomas Bangalter va travailler avec l'artiste JR. Vous savez, c'est cet artiste qui transforme des espaces publics en galeries, en collant des visages géants sur les murs, notamment. Eh bien, JR a fait appel à la moitié des Daft Punk pour son projet d'emballement du Pont Neuf à Paris. Hommage à l'empaquetage des artistes Christo et Jeanne-Claude il y a 40 ans. Du 6 au 28 juin prochain, en fait, le plus ancien pont de la capitale se transformera en immense caverne, 120 mètres de long, 20 de large. Thomas Bangalter est invité à imaginer la sonorisation de la grotte comme, je cite, une étoffe acoustique unique, sans pour autant que ce soit de la musique. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Le projet, c'est 800 personnes mobilisées. Rendez-vous au mois de juin prochain.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mardi, et le mardi, c'est la gauche. Cécile Duflo, 5 jours après l'ex-prince, comme on dit, Andrew, c'est Lord Peter Mandelson, ancien ministre britannique, ancien ambassadeur, qui a donc été arrêté hier soir pour être interrogé dans l'affaire Epstein. Pour vous, Cécile, c'est une affaire qui devrait être prioritaire pour nos démocraties et il faut un grand nettoyage.
Oui, c'est une attaque contre nos démocraties parce que vraiment, le niveau à la fois de dégueulasserie et ce sentiment que des élites mondialisées se connaissent et se protègent depuis des années, ça donne un sentiment, une impression désastreuse. On sait ce qui fait le lit du complotisme et du rejet des dirigeants, c'est ils sont tous pourris et ils se protègent tous. Et honnêtement, quand on regarde les bribes, pour l'instant, des dossiers Epstein qui sortent, ça donne cette impression-là, ça donne du grain à moudre, toutes ces photos à la fois de puissants et d'agressions sexuelles, c'est écœurant. Donc il faut absolument que la justice et les journalistes fassent leur travail jusqu'au fond pour nettoyer les écuries d'OGS.
Alors côté justice, c'est vrai que finalement il y a assez peu d'enquêtes. On se souvient même de la déclaration d'Emmanuel Macron qui disait non, mais tout ça c'est une affaire américaine.
Oui, ça, il avait dit ça concerne prioritairement les États-Unis. Non, Epstein a un domicile en France depuis 2001. Ça fait près 25 ans, 24 ans d'agression et de sans doute de complicité et aussi probablement de victimes. Donc, et qui ont sans doute évidemment eu le sentiment de ne pas être écoutés. Donc la justice avait été saisie en 2019, il ne s'était pas passé grand-chose. Il faut comprendre à la fois pourquoi l'enquête n'a pas prospéré à cette époque, et là il faut que l'enquête, que les moyens soient mis et qu'elle aille jusqu'au bout, qu'on déterre absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette affaire, qu'on ne laisse pas le sentiment que des gens sont protégés.
En fait, qu'on ne laisse pas le doute, que l'on enquête, que l'on travaille, que l'on revienne aux faits. Cécile, vous voyez aussi un lien entre l'affaire Epstein et l'affaire Pellico.
Oui, la France a été secouée il y a quelques mois par l'affaire Pellico. Et là aussi, c'était une affaire de violence sexuelle massive commise par des hommes. Mais là où les agresseurs de Gisèle Pellico étaient monsieur tout le monde, aujourd'hui, ce sont des puissants qui sont liés à la fois par des intérêts d'affaires autant que par l'exploitation de jeunes filles, voire de mineurs. Et ce qui se passe là, c'est le miroir grossissant de toutes les inégalités. Violenter des jeunes filles pauvres et vulnérables en se garantissant l'impunité par l'argent, parce que c'est exactement le projet et ce qu'a fait Epstein pendant des années. D'ailleurs, l'activité principale d'Epstein, c'était le conseil entre guillemets financier, et notamment sa capacité à échapper, à trouver des montages pour échapper échapper à l'impôt. Donc ce système absolument dégueulasse et écœurant, il faut y mettre fin parce qu'il interroge la capacité de résistance de nos démocraties. Parce que, et le seul moyen d'y répondre, c'est la justice la plus droite et la plus inflexible, celle qui peut donner aux jeunes filles vulnérables l'impression que leur parole, leur vie vaut davantage que celle des puissants. C'est ça la démocratie, c'est ça la justice, on en a besoin absolument et urgemment.
Cécile Duflo, la voix de gauche, demain ce sera la voix de droite. Dans un instant, la météo et le journal de 8h à la une du journal. Cet adolescent de 15 ans, poignardé à la sortie de son lycée près de Lyon, l'agresseur est toujours en fuite et l'adolescent est entre la vie et la mort. On fera un point complet aussi sur la météo avec Géraldine Nemory. Il y aura du soleil et de la douceur aujourd'hui et ça fait si longtemps qu'on l'attend. Juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel Le Chip. On passe au garage ?
Oui, les garagistes qui font moins de réparations, mais ça nous coûte un peu plus cher.
Vous nous le dites dans un instant, il est
7h57. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
C'est 7h59, il fait beau Géraldine.
Beau et bon, douceur quand même assez exceptionnelle avec sans doute des records qui vont d'ailleurs être battus ce matin. Cet après-midi, on attend 16 degrés à Paris, à Lille, 17 à Lyon, 18 à Marseille, Bourges, 20 à Bordeaux, 21 à Toulouse, jusqu'à 23 degrés à Biarritz. Alors journée calme, mais on vous avait prévenu, la décrue sera lente, donc on reste en vigilance sur plusieurs départements. Vigilance rouge notamment sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Journée calme avec quand même pas mal de nuages qui vont résister au nord de la Seine, mais partout ailleurs, c'est bien le soleil qui va s'imposer. Soleil qui s'imposera partout demain avec un pic de douceur attendu. On aura 19 degrés de moyenne sur tout le pays.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Imaginez des policiers à l'entrée des lycées pour en assurer la sécurité. Eh bien c'est ce qui se passe ce matin à Bron, où un lycéen de 15 ans est entre la vie et la mort depuis hier, depuis qu'il a été poignardé près de son établissement scolaire. RMC est en direct sur place ce matin. Vous verrez que la sécurité et la question des alliances à gauche au cœur est au cœur de la campagne des municipales à Lyon, 10 jours maintenant après la mort du militant nationaliste Quentin Derenck. Et on va retourner dans ce journal sur RMC, sur le front, en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on est 4 ans jour pour jour ce matin après le début de la guerre.
Des policiers sont donc déployés ce matin devant le lycée Béjuy de Bron.
Oui, c'est dans la banlieue de Lyon et c'est là qu'un adolescent de 15 ans a été poignardé à l'arme blanche hier près d'une maison de quartier et près de son lycée également. Où vous êtes en direct ce matin, Vincent Chevalier, en correspondant de RMC dans la région de Lyon. Vincent Chevalier, les cours reprennent ce matin sous présence policière.
Oui, scène assez inhabituelle pour ces lycéens. Des policiers municipaux accompagnés par des membres d'une cellule d'aide psychologique accompagnent la rentrée des élèves ce matin. Les surveillants sont aussi présents avec des membres de la direction, un personnel sous le choc, encore très ému des événements de la veille. Pareil pour les lycéens comme Kevin.
Moi ça m'a un peu choqué, ma mère m'avait dit de plus venir à l'école parce que c'était un peu choquant pour elle, c'est pour ça. Ouais, elle m'a dit de faire attention. Mais bon, ça arrive très rarement. Et puis j'espère que ça arrivera plus. C'est grave que ça arrive au lycée quand même.
Hier vers 15h30, une bagarre éclate entre plusieurs jeunes. À seulement quelques pas des portes de ce lycée professionnel, l'un des jeunes sort un couteau, poignarde la victime, au moins un coup au niveau de l'aisselle avant de prendre la fuite. La victime, un élève de seconde dans cet établissement, est dans un état grave quand il est pris en charge par les secours. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.
Vincent Chevalier, en direct de Bron, donc ce matin pour RMC. C'est une nouvelle affaire de violence dans la région lyonnaise où donc la sécurité devient le sujet de la campagne des élections municipales. Autant que la question des alliances à gauche entre socialistes et insoumis. Vous savez qu'on est 10 jours maintenant après la mort du militant nationaliste Quentin Derenck. À Lyon précisément, le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, est candidat à sa propre succession sans le soutien des insoumis qui présentent une liste de leur côté. Mais Thomas Becker du service politique RMC, vous nous dites que c'est quand même un sujet de campagne.
Oui, le camp de Jean-Michel Aulas accuse le maire sortant Grégory Doucet de proximité avec les insoumis et la jeune garde, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement.
On sait que la majorité municipale de Grégory Doucet est extrêmement proche de ce mouvement fondé par le fichier S Raphaël Arnaud. Cette proximité avec LFI, l'extrême gauche et les écolos, c'est un retentissement tout particulier ici à Lyon.
Sauf qu'au premier tour, il y a bien une candidature insoumise, distincte du reste de la gauche, rappelle le maire de Lyon pour balayé ces accusations. Mais le RN insiste sur la responsabilité politique du maire. Florian Patard est candidat dans le 9e arrondissement.
Grégory Doucet, en 2024, soutenait les candidats du Front Populaire qui avaient parmi effectivement leur propagande officielle de campagne et bien la Jeune Garde comme soutien.
Cerné par ses concurrents, le maire écologiste en campagne dénonce une instrumentalisation.
Il y a une enquête et un travail des enquêteurs et de la justice à respecter. Récupérer d'une façon ou d'une autre politiquement le décès d'un jeune homme de 23 ans, c'est tout simplement indécent.
Attaqué sur son bilan sécuritaire, il rappelle avoir maintenu l'armement de la police municipale et investi dès son arrivée dans la vidéosurveillance.
Et il en sera question ce soir sur BFM TV, puisqu'Apolline, ce soir sur BFM, présentera le débat avec les quatre principaux candidats dans cette ville de Lyon. Avant ça, les GG, les grandes gueules, ils seront ce matin à partir de 9h en direct depuis Lyon, donc sur RMC. Et puisqu'on parle des municipales, tiens, à Marseille, la candidate de la droite, Martine Vassal, publie là, à l'instant, une photo de tag sur sa permanence de campagne. À mort Vassal, voilà ce qu'il est écrit. Elle accuse l'ultra-gauche avec qui, dit-elle, le maire sortant Benoît Payan s'affiche sans gêne. C'est ce que dit donc Martine Vassal. Et c'est dans ce contexte que se tiendra à l'Élysée ce matin à 10h une réunion consacrée aux groupes violents. Autre sujet du jour, c'est le gouvernement qui cherche à faire des économies et qui a l'intention de récupérer précisément 2 milliards d'euros avec son projet de loi contre la fraude sociale et fiscale. Texte qui a été adopté et durci en fin d'année dernière au Sénat et qui sera débattu à partir de ce soir à l'Assemblée nationale. Il y a un volet qui concerne les particuliers et un autre qui concerne les entreprises et donc la lutte contre ce qu'on appelle le travail au noir, Anna Jojard.
Oui, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre de fermer temporairement les structures qui auraient permis directement ou indirectement le travail au noir. Le projet de loi prévoit aussi la création d'une procédure de flagrance sociale. Concrètement, dès que du travail dissimulé serait détecté, les agents pourraient alors saisir les actifs à titre conservatoire. Une bonne nouvelle pour Théodore Aslamatitis, secrétaire régional du Centef-CFDT, syndicat qui représente notamment les inspecteurs du travail et qui regrette aujourd'hui des procédures qui sont souvent trop longues.
Là, les entreprises, ils ont vraiment le temps de fermer, voire de changer plusieurs fois de propriétaire avant qu'on puisse les attraper. Donc cette procédure d'accélération a supposé qu'elle arrive à bien coordonner tous les services existants pour créer une force de frappe, va évidemment dans le bon sens.
Avec de telles mesures, le ministre du Travail espère bien tripler le taux de recouvrement sur la fraude au travail dissimulé.
Il est 8h05 sur RMC. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en Ukraine ce matin. Pourquoi ? Bien pour commémorer les 4 ans du début de la guerre et de l'invasion des Russes qui contrôlent désormais 20% du territoire ukrainien. À cette occasion, Volodymyr Zelensky donne une interview à la télé américaine pour demander à Donald Trump de, dit-il, rester dans le camp des Ukrainiens. Marion Gauthier, agent pour RMC, des Ukrainiens engagés dans le conflit.
Elle répond depuis un camp de formation. Marina, 40 ans, s'est engagée dans l'armée ukrainienne.
On vit sous terre parce que les camps de formation sont régulièrement frappés.
Encore quelques jours d'entraînement par moins 20 degrés, sans autre espoir que d'aller soutenir le front.
Les conditions sont devenues encore plus dures. Une connaissance vient de passer 60 jours au front. Moi, la décision, je l'ai prise en mai quand j'ai compris que ma ville natale peut aussi se retrouver sous occupation. Les Russes avancent, le soutien persiste, mais s'effrite. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a comme choix ?
L'armée russe occupe notamment une grande partie du Donbass, mais elle avance lentement, souligne le consultant Stéphane Audran, et qui a assuré ce week-end d'avoir libéré 300 km² dans le sud du pays.
Alors que depuis 2 ans, les Ukrainiens prenaient des coups sans trop pouvoir contre-attaquer, là, on voit depuis Noël des vrais mouvements de contre qui s'accumulent, et donc les Ukrainiens lancent des contre-attaques. Mais c'est vrai que sur le plan territorial, la guerre est assez stable. Ce qu'il vise, c'est à s'infliger plus de pertes que n'est soutenable par l'autre.
Une guerre d'usure, plus coûteuse, dit-il, pour la Russie. Les morts se comptent en centaines de milliers.
Deux informations aux États-Unis ce matin. D'abord, les nouveaux droits de douane de Donald Trump entrent en vigueur, ça y est, ce matin, 10% pour tout le monde. Après, ceux qui ont été mis à la poubelle la semaine dernière, le revers devant la Cour suprême concernant les précédents droits de douane. Alors, c'est pas le moment de prendre l'avion pour aller là-bas aux États-Unis avec la tempête de neige qui a balayé toute la côte est. État d'urgence décrété dans 8 États, dont celui de New York. 6000 vols annulés hier. Il y en a déjà 2000 pour aujourd'hui. 40 millions d'Américains qui sont concernés. Chez nous, en France, il y a toujours 3 départements en alerte rouge pour les inondations. Ça fait 10 jours quand même. Et la décrue, comme prévu, est très lente. J'ai regardé ce matin dans les villes dont on parle beaucoup. Le niveau de la Charente a baissé de seulement 10 cm en 24 heures à Saintes. Une quinzaine seulement pour la Maine à Angers. Écoutez pourquoi ça prend autant de temps avec l'hydrologue Emma Aziza.
Si la décrue est lente, c'est dû au fait que vous avez énormément de petits affluents à des rivières qui se sont mises en charge donc avec des crues secondaires. Et toutes ces eaux-là eh bien, sont arrivées sur le fleuve. Donc ça génère des sortes d'effets de bouchons qui, d'affluent en affluent, ont bloqué complètement les écoulements. Donc ça prend du temps. La crue était exceptionnelle. Donc il faut s'attendre à un retour à la normale qui devrait arriver pas avant au moins une bonne semaine suivant les bassins. Mais c'est extrêmement variable d'un territoire à l'autre.
Et même pas dit que ça s'accélère avec le redoux, là, soudainement, il va faire jusqu'à 25 degrés aujourd'hui au pied des Pyrénées.
Je suis tellement fou. C'était donc le journal de Quentin Vinet et à 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, les garagistes font moins de réparations, mais par contre, c'est plus cher.
Oui, la tendance vaut pour les ateliers de mécanique, comme pour les ateliers de carrosserie, nous dit le dernier baromètre Mobilance Soloir. Alors, pour les dégâts mécaniques, les garagistes de l'Hexagone ont accueilli moins de voitures à réparer en 2025, 2% de moins qu'en 2024, mais ils les ont restituées à leurs propriétaires avec une facture en hausse de presque 3% à 403 euros en moyenne contre 392 l'année précédente. La baisse de fréquentation est à peu près similaire pour les ateliers de carrosserie. Par contre, la réparation moyenne a augmenté de plus de 4%. C'est plus que pour la mécanique. Et là, on est à 1705 euros contre 1634 en 2024. Oui, la tôle froissée, ça coûte plus cher. Et s'il y a moins d'intervention, c'est parce que malgré le vieillissement du parc, bah, les gens réparent de plus en plus eux-mêmes.
Et le problème, c'est que ça fait longtemps que ça augmente, en fait.
Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu plus raisonnable. Hein. Effectivement, le coût des réparations avait dérapé.
C'était pire avant.
Ah ouais, après la crise sanitaire, c'était fou. Hein. Rappelez-vous, l'inflation qui s'emballe sur fond de rupture d'approvisionnement dans toute la filière automobile. En 2023, on est sur une hausse de 12% du prix des réparations. Là, on est revenu sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus raisonnables. Alors, toujours pareil, hein, attention aux moyennes. Les garagistes ont fait des efforts pour serrer les prix sur les réparations les plus simples, la révision climatisation, le diagnostic électronique. Là, on a même des prix en véritable baisse. Ça arrive. Et puis, la hausse a été plus marquée, par contre, sur les réparations un peu plus complexes. Soit parce que les interventions sont plus techniques, c'est le cas notamment sur les voitures électriques, soit parce que les pièces et les produits coûtent plus cher. La peinture, elle a augmenté de 6%. Par exemple, une courroie de distribution, c'est 12% d'augmentation, des plaquettes de frein, 11%.
Tous les Français sont pas logés à la même enseigne. Hein.
Non, et là, c'est d'autres études qui nous le disent. Les écarts entre départements tendent à diminuer, mais restent quand même très importants. La région la plus chère pour faire réparer sa voiture, c'est la Corse. On est au moins 20% plus cher que la moyenne nationale. C'est pas beaucoup mieux à Paris. Les Bouches-du-Rhône, les Vosges, les Hautes-Pyrénées, la Meuse restent très supérieurs, eux aussi, à la moyenne nationale. À l'inverse, les départements les moins chers, c'est les Côtes-d'Armor et le Pas-de-Calais, où là, on est sur des niveaux qui sont 20% inférieurs à peu près à la moyenne nationale.
Merci Emmanuel, il est 8h11. Et on part à Lyon parce que vous y êtes, Alain Olivier, Alain Marchal, à 9h.
Bonjour Apolline.
Vous avez posé les GG au cœur de Lyon.
Oui, les grandes gueules sont en direct du Palais de la Bourse, ici à Lyon. Magnifique décor historique pour les GG, pour nos discussions de 9h à midi. Lyon, pour les élections municipales, c'est un chef d'entreprise qui est favori, Jean-Michel Aulas, favori du scrutin. D'ailleurs, il y aura un grand débat ce soir à suivre en direct sur RMC entre les candidats. Alors justement, est-ce que les Lyonnais vont voter pour un chef d'entreprise et non pas un homme politique? On leur posera la question, on en débattra avec nos amis de BFM Lyon. Et puis, à la mode grande gueule, on passera en revue, bien sûr, toute l'actualité du moment. Jean-Luc Mélenchon qui continue de soutenir la jeune garde. On regardera le gouvernement qui veut lutter aussi contre le travail au noir. Est-ce que c'est mission impossible? Et puis on donnera la parole aux Lyonnais, au public, puisque notre émission est en direct et en public de 9h à midi ici au Palais de la Bourse à Lyon. Voilà le programme.
Voilà le programme, cher Alain. Donc c'est au Palais de la Bourse, vous pouvez aller les voir. Et puis moi j'y serai aussi ce soir, puisqu'effectivement dans ce décor formidable, j'animerai le deuxième débat des municipales. 4 candidats face à moi, rendez-vous à 20h55 sur BFM TV ce soir. Il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15, vous êtes bien sûr à RMC et à RMC Story. Il a pris quelques jours, Arnaud Demanche, mais on a gardé le meilleur, écoutez.
Bonjour, bonjour les amis.
Ça fait du bien d'attaquer une nouvelle semaine avec vous sur RMC. RMC, la seule radio qui ne vous parle pas de Pierre Ninet toutes les 3 minutes. Ouais, c'est fou en ce moment. T'allumes un écran, boum, il est là. C'est le Alain Bauer du cinéma. Je n'en peux plus. Je mange Pierre Ninet, je dors Pierre Ninet. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme. Elle m'a dit « À quoi tu penses ?» J'ai même pas osé répondre. Il est obsédant, ce type. J'adore Pierre Ninet, hein, mais bon, j'aime aussi le chocolat. C'est pas pour autant que j'en bouffe 12 kilos par jour.
Un coup de tonnerre, Arnaud, s'est produit ce week-end dans la campagne présidentielle pour 2027.
Oui, c'était un week-end choc, ouais. Une journée charnière. Apolline, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate.
Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça
fait quelque chose. C'est fou, hein, le parcours de Lucie Castet. Quel destin. Il y a un an, personne la connaissait, tout le monde s'en foutait. Et maintenant, regardez... Tout le monde s'en fout aussi, sauf qu'on la connaît. On n'avait pas vu une telle carrière politique depuis Stanislas Guérini. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, Stanislas Guérini aussi renonce à 2027.
Oh non, me dites pas ça.
Et à 2032. Oh. Il ne l'a pas déclaré encore, je le fais à sa place, hein, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Arnaud, 3 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein ont été divulgués par la justice américaine.
Et c'est atroce. On lit des monstruosités sur les célébrités qui se rendaient dans des soirées de débauche. Moi, j'ai épluché quelques pages en me disant « Pourvu que Thomas Pesquet soit dedans !» Eh bien, figurez-vous que ce salaud n'y est même pas. Il n'y a vraiment décidément rien à lui reprocher. Monsieur parfait. Épuisant.
Vous sinon, faites une petite obsession peut-être sur Thomas Pesquet et Pierre Ninet.
Il m'épuise. Hein, les deux. J'arrive pas à les détester. Sinon, il y a énormément de célébrités. Donald Trump, le prince Andrew, c'est accablant pour eux. Ils sont à un point où Bolloré peut leur proposer une quotidienne. Et sur Twitter, dans les forums, j'ai vu aussi Woody Allen, Bill Gates, Cyril Ferraud. Grosse surprise, les photos de Cyril Ferraud tout nu avec les nains de Fort Boyard et Nagui. Vous avez vu ça? Ah ça, non. C'est pas Théo Curin qui aurait eu les mains baladeuses comme ça. Hein.
Pareil,
les vidéos entre Jeffrey Epstein, les frères Lebrun et Lynn Renault.
Oh non.
Énorme choc. Vous savez pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec du maroilles et des raquettes de ping-pong. Vous étiez au courant? Et alors les photos de Bill Gates avec Jean-Jacques Goldman, alors là c'est le pompon. Surtout la partie avec la crème fouettée, les pinces à linge, les tuyaux en plastique, le lubrifiant et les hamsters. Et Michel Drucker qui filme, hein, vraiment c'est épouvantable. Attention, il paraît qu'il y a beaucoup de témoignages farfelus dans les 3 millions de pages. La séquence zoophile avec Danny Boone et Grand Corps Malade,
non,
c'est peut-être un fake. Attention à ce que vous lisez sur Internet.
Allez, ce que demain. Vous entendez sur RMC.
Gros bisous.
Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve à tout moment en
et
podcast
bon
sur RMC.fr. Il est 8h18 et c'est l'heure de partir en vacances, c'est l'heure de vous féliciter. Eric, bonjour Eric.
Bonjour Apolline, bonjour
Eric,
l'équipe.
C'est vous qui avez gagné, le séjour, les vacances, bel embras, félicitations.
Oh, c'est super, merci beaucoup, trop génial.
J'avoue qu'on cool. on est très heureux pour vous, on est même prêt à partir avec vous.
Un peu jaloux.
Ah ouais, vous pouvez me dire, hein, volontiers.
Eric, vous vivez dans l'Ain, c'est ça?
Tout à fait, oui, à côté de Mâcon, un petit village.
Est-ce que vous savez déjà ce qui vous fait rêver? Est-ce que vous voulez aller au soleil, à la montagne, à la mer?
On adore la France, donc on adore la Corse. Je ne connais pas la Bretagne, donc peut-être soit l'un, soit l'autre.
Ah bah c'est sympa ça, effectivement, de ne pas connaître la... Franchement, je suis heureuse pour vous de vous dire que vous avez encore la Bretagne à découvrir. Moi aussi, j'adore la France. En fait, à chaque fois que je pars de France, je me dis pourquoi je suis partie? En fait, c'est tellement plus sympa. Merci en tout cas, Eric, de votre fidélité. On est très heureux de pouvoir la récompenser avec ce séjour Bel Embras. Tous les jours, on vous fait gagner un séjour Bel Embras. Toute la semaine, on vous fait gagner vos vacances. Et les messages, Mathieu, les messages, les réactions, notamment à ces témoignages sur la drogue depuis ce matin, la consommation de drogue qui explose en
France. Elle est saisie aussi, et on parle de drogue dure, hein, cocaïne bien sûr, on en parle souvent, ecstasy, MDMA aussi, 480% de hausse en 13 ans pour les drogues, comme l'ecstasy, nous dit Ralph, ça me fait halluciner. Par contre, ce qui me choque le plus, c'est que moi, dans ce cas, je voudrais qu'on ait des contrôles médicaux dans les entreprises, qu'on sache qui se drogue, parce que ça veut dire que j'ai des collègues à moi qui le font dans cet état, et j'ai pas envie de mourir au travail à cause d'eux. Voilà ce qu'écrit Ralph ce matin au sujet de la toxicomanie au 0612 424 424. Vous continuez à nous écrire. D'ailleurs, Martine nous écrit « Aujourd'hui en France, l'État fait le minimum contre les narcotrafiquants. Ça génère une économie parallèle. Il suffirait de contrôler les achats de certaines personnes qui sont sur notre territoire et leur demander d'où ils tirent leurs ressources quand on voit des gens au chômage qui roulent en grosse berline allemande ou autre. Particulièrement, l'État doit agir. » Voilà ce que dit Martine ce matin au 0612 424 424. Ali nous dit « Le narcotrafic qui a augmenté ces 20 dernières années, la vraie question n'est pas comment faire pour lutter, mais est-ce qu'on a vraiment voulu lutter contre les narcotrafiquants et contre les consommateurs ?» Voilà quelques-uns de vos messages ce matin au 0612 424 424.
C'était les messages donc au 32-16. Il est 8h20. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen. Il est dans un véritable bras de fer avec les États-Unis. Et c'est le cas de la France globalement. Vous le savez, l'ambassadeur des États-Unis en France a été convoqué hier soir au ministère des Affaires étrangères. Il ne s'est tout simplement pas pointé. Il n'est même pas venu. Il sera puni. Il n'aura plus accès au gouvernement français. C'est un point supplémentaire dans l'escalade entre les États-Unis et la France. On va parler droit de douane aussi, évidemment. Et économie, il est 8h21. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien commissaire européen, bien sûr, ancien ministre de l'économie. Vous êtes aujourd'hui sous une forme de sanction de la part des États-Unis. Vous n'avez plus le droit au visa. Et je voudrais particulièrement vous interroger sur ce qu'il s'est joué hier soir, ce qu'il se joue aujourd'hui. L'ambassadeur des États-Unis en France était convoqué au ministère des Affaires étrangères à 19h. Il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit des États-Unis? Et on parlera ensuite des sanctions qui vont être prises par la France à son encontre. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis de ne même pas honorer un rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères?
Dans la gradation des tensions qui peuvent exister, ou des irritants, on va dire, qui peuvent exister entre les États, il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui sont normés. Comme par exemple la convocation d'un ambassadeur. C'est pas la première fois du reste que l'ambassadeur des États-Unis en France se fait convoquer par le Quai d'Orsay. Alors on sait qu'il n'a pas du tout d'expérience diplomatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, ceci n'excuse pas, bien entendu, les attitudes ou les propos, et c'est dans ce contexte que le Quai d'Orsay, lorsqu'il l'estime nécessaire, convoque l'ambassadeur. Alors la première fois, il n'est pas venu, il avait renvoyé un numéro 2 à un numéro 3. Cette fois-ci, il ne vient pas. Ben voilà, c'est un constat.
Un constat de quoi? C'est-à-dire, c'est un constat quoi? D'arrogance, de refus de dialogue, de volonté de rupture.
Apolline de Malherbe, il faudra lui demander, parce qu'évidemment, s'il le fait, c'est qu'il a sans doute des raisons. Il sait ce qu'il fait. En tout cas, on peut l'espérer. Personnellement, moi, je suis attaché, encore une fois, à des relations apaisées avec les États-Unis. Alors on voit ce qui se passe, et j'en suis aussi la victime. Mais je continue à dire qu'il est absolument indispensable de garder évidemment une relation équilibrée, en tout cas à travers ceux qui ont la responsabilité des canaux. Bon, alors on voit que l'ambassadeur actuel des États-Unis, il préfère visiblement recevoir Madame Le Pen et Monsieur Bardella que d'aller voir Monsieur Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Très bien, c'est son choix. Il est assumé. Il est là pour s'appuyer et pour développer le Rassemblement national en France. Il le dit de façon très explicite. Je n'invente rien. Il suffit de lire, encore une fois, ce document de la sécurité nationale qui a été, je dirais, la bible diplomatique du département d'État américain en décembre 2025, en indiquant précisément que les États-Unis avaient l'intention désormais de s'appuyer sur les partis extrémistes d'extrême droite en Europe pour affaiblir l'Europe et ses institutions. Très bien, il le dit, c'est pas pour autant une raison pour ne pas aussi travailler avec
Thierry
ceux
Breton,
qui incarnent démocratiquement le choix des électeurs français. Pour l'instant, le choix des électeurs français, c'est évidemment d'avoir porté au pouvoir le gouvernement tel qu'il est avec son président.
Ce que vous nous dites, Thierry Breton, c'est qu'au fond, ça n'est pas du tout un hasard de calendrier ou une difficulté d'agenda. Il y a un ambassadeur qui, quand il ne vient pas sciemment à une convocation, le fait, semble-t-il, avec l'accord, voire même en harmonie avec la décision de Donald Trump. Mais surtout, vous nous dites qu'au fond, il y a une véritable ingérence politique.
Bah, en tout cas, il suffit encore une fois de lire, je dirais, la philosophie, la ligne désormais de conduite du département d'État américain, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères américain, qui dit, je le redis de façon très explicite, qu'il veut s'appuyer sur tous les partis d'extrême droite en Europe pour mettre à mal les institutions européennes et vassaliser l'Europe. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, il faut qu'on en tienne compte. Alors moi, je le regrette personnellement. Moi, je suis un ami des États-Unis. Quelles que soient, encore une fois, les évolutions politiques. Je le regrette, mais c'est ce qui est dit. Il faut que nous, encore une fois, on en tienne compte. Il n'en demeure pas moins, et je le redis par rapport à votre question, il n'en demeure pas moins que nous devons avoir des relations qui sont des relations équilibrées. Si jamais l'ambassadeur est convoqué, évidemment, avec un allié, il faut venir, ou en tout cas, envoyer son numéro 2.
On verra effectivement pour la suite, mais au fond, quand vous dites qu'il veut s'appuyer, est-ce que il veut juste s'appuyer ou est-ce qu'il veut favoriser? Et là, on serait dans ce cas-là dans une forme de manipulation. C'est-à-dire, est-ce que vous dites, il faut être vigilant. Est-ce que les États-Unis vont activement faire en sorte qu'un parti gagne plutôt qu'un autre?
Personne ne le sait. En tout cas, on voit les intentions. Elles sont exprimées. Certains les expriment de façon très explicite, comme par exemple Monsieur Steve Bannon, qui dit de façon très très explicite ce qu'il attend des résultats des élections en 2027.
Steve Bannon n'est pas membre de l'administration.
Mais il fait partie encore une fois de cette galaxie MAGA. Mais vous savez, faire en sorte que nous préservions notre démocratie, nous avons des lois. Ces lois doivent être respectées. Nous avons également des lois désormais dans l'espace informationnel, dans l'espace numérique. J'en ai été le rédacteur. Ces lois doivent être appliquées, non pas encore une fois en discrimination, mais pour protéger nos institutions, pour protéger notre démocratie.
Est-ce qu'elle est fragile, notre démocratie? Est-ce qu'elle est vulnérable à leurs intentions, voire même peut-être à leurs actions?
Notre démocratie est fragile si ceux qui sont en charge d'appliquer les lois ont la main qui tremble. S'ils n'ont pas la main qui tremble, et je pense en particulier à la Commission européenne, qui doit appliquer ses lois désormais, non pas encore une fois de façon véhémente, de façon violente, mais tout simplement, lorsque ils voient qu'il y a des manquements, et je parle de l'espace informationnel, ils ont l'obligation d'appliquer ces lois sans discrimination, ça veut dire évidemment sans ostracisation également, mais il faut le faire, et ces lois, je le redis, protègent, évidemment, sont faites pour nous protéger dans cet espace informationnel, bien sûr nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus important, mais aussi notre démocratie, il faut donc appliquer les lois.
On va revenir à cette question justement de l'information du numérique, mais dans la mesure où l'ambassadeur ne s'est pas présenté, il aura désormais plus de difficultés à accéder aux membres du gouvernement français. C'est une sorte de sanction à son endroit. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est suffisamment ferme avec les États-Unis?
J'ai pas de jugement à porter encore une fois sur la façon dont le Quai d'Orsay veut réagir. Je crois qu'il a bien réagi. Et j'espère que, au fond, on va retomber dans une normalité.
Je suis frappé par la manière dont vous ne voulez pas mettre d'huile sur le feu.
Oui, parce que c'est normal, encore une fois. On voit très bien les choses telles qu'elles se passent. Je vous les ai décrites à l'instant. On sait très bien où sont les aspirations, encore une fois, du gouvernement américain actuel par rapport au parti d'extrême droite en France et en Europe. On le voit très bien. On voit que l'ambassadeur des États-Unis a également ses aspirations. J'ai rappelé tout à l'heure le fait qu'il a reçu en grande pompe les deux leaders d'extrême droite en France, Madame Le Pen et Monsieur Bardella, c'est son choix. Et encore une fois, je ne le critique pas. Et je ne critique pas non plus eux s'ils vont le voir. Mais on sait encore une fois où il est. Très bien. Il faut en tirer les conséquences. Il n'en demeure pas moins que nous sommes nous-mêmes une grande démocratie et qu'on doit travailler, qu'on doit discuter avec les États-Unis à travers les canaux officiels.
La question ensuite de la puissance de l'Europe et de son harmonie, notamment vis-à-vis de la Russie, on va y venir, mais une dernière question sur la relation avec les États-Unis. Emmanuel Macron a écrit personnellement à Donald Trump pour parler de vous, pour lui demander, je cite, de reconsidérer les décisions de l'administration et de lever les sanctions injustement imposées à Nicolas Guilou. Milou, qui est donc ce juge français, et à Thierry Breton. Savez-vous s'ils ont répondu et si les choses suivent leur cours?
Non, je n'ai pas cette information, Pauline de Malherbe. Mais en tout cas, j'ai vu.
Donc ils n'ont pas répondu, sinon vous le sauriez.
Je crois que cette lettre est assez récente, donc on va peut-être laisser le temps, peut-être qu'ils la reçoivent et qu'ils la discutent. J'ai évidemment été sensible de.
J'imagine qu'elle n'est pas envoyée par la poste.
Je ne pense pas, qu'elle a dû normalement
arriver assez vite.
Ça sert à ça aussi les ambassadeurs. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir des contacts. Mais voilà, donc j'ai bien entendu pris ça comme je devais le prendre. C'est-à-dire que j'ai été sensible effectivement au fait que le président de la République le dise et dit quoi. En fond. Il dit que tout simplement, que ce soit le juge Guillou ou moi-même, nous avons tout simplement exercé notre mandat, notre travail, sans discrimination, sans vouloir ostraciser quiconque, tout simplement par rapport, encore une fois, à ce qui nous était demandé. Et en ce qui me concerne, je le rappelle, bien sûr, j'ai proposé ces textes de loi qui encadrent le numérique désormais, c'est ô combien nécessaire.
Et c'est au titre de cela que vous êtes aujourd'hui sanctionné par les États-Unis.
Mais je le redis, ceux qui font les lois, et heureusement, nous sommes dans une démocratie, c'est le Parlement européen qui a voté à près de 90%, les députés, 90% des parlementaires européens ont voté. C'est donc eux qui sont évidemment, qui devraient être sanctionnés, mais je
vous payez pour tout le monde, vous portez le chapeau.
Et les 27 États membres qui ont voté à l'unanimité. Vous voyez, c'est finalement toute l'Europe qui est concernée.
Vous êtes le bouc émissaire de tout le monde. Enfin, tout de même, Thierry Breton, il est frappant de voir que Emmanuel Macron écrit à Donald Trump et Donald Trump ne répond pas.
On verra.
En tout cas, pour l'heure, il n'a pas répondu. Un mot sur les droits de douane. On a du mal à suivre désormais, mais au fond, ce ne sont plus les changements de pied de Donald Trump, c'est désormais la justice américaine, la Cour suprême, qui condamne Donald Trump sur ses droits de douane. Il avait commencé par dire qu'il passerait outre. Pourra-t-il le faire? Est-ce qu'au fond, le meilleur gardien des relations, ce n'est pas justement la démocratie, y compris la démocratie américaine, au fond?
Eh bien oui, on retombe dans le droit. Et au fond, je suis de ceux qui regardent ça, évidemment, avec beaucoup d'attention, vous l'imaginez. J'imagine. Mais aussi, je ne vais pas non plus m'en réjouir, c'est, encore une fois, les institutions américaines qui fonctionnent. Vous savez, on appelle ça le check and balances, c'est-à-dire les contre-pouvoirs. Eh bien, les contre-pouvoirs ont fonctionné, bien que la Cour suprême, je le rappelle pour nos auditeurs, elle est plutôt à la main aujourd'hui, puisqu'il y a ces 9 juges donc qui prennent les décisions suprêmes, c'est un peu l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Sur ces 9 juges, il y en a 6 qui ont été, qui sont des républicains ou nommés par Donald Trump. Eh bien, malgré tout, ils ont dit le droit, et le droit, c'est que on ne peut pas, aux États-Unis, et quelque part Donald Trump ne peut pas, utiliser les droits de douane comme il les a utilisés, c'est-à-dire comme des armes, comme des revolvers. Vous savez, on disait, il met un revolver sur la table, et quand il discutait, il vous disait, si jamais tu fais pas ce que je veux, je vais te mettre 30%, 40%, 50% de droits de douane. Eh bien, on se rend compte que ce revolver, c'est un revolver à eau. Il n'était pas chargé.
Il n'était pas chargé. Il n'y aura donc pas. Comment vous voyez la suite?
Alors, la suite, c'est qu'il y a quand même une disposition, cette fameuse section 122, donc qui autorise le président des États-Unis pour rester dans le droit, encore une fois. Parce qu'encore une fois, les relations internationales sont encadrées par le droit. Pour rester dans le droit, donc il autorise donc à mettre pendant 150 jours. Donc des droits de douane à hauteur de 15% maximum. Donc il a utilisé ce qui est maintenant autorisé par la loi. Enfin, il respecte la loi dans les relations internationales. C'est donc une bonne chose. Mais dans 150 jours, on verra, il faudra qu'il repasse devant le Congrès. Donc on est dans l'incertitude la plus absolue. J'ajoute que toutes les décisions...
On reste dans l'incertitude.
Mais je voudrais rendre hommage ce matin à votre micro au Parlement européen. On se souvient de cet accord, on va le dire, calamiteux, qui a tellement humilié les Européens, qui avait
signé
été scellé par Ursula von der Leyen et Donald Trump dans ce golfe de Tanberry, donc au nord du Mexique, où finalement on avait le sentiment qu'on avait tout lâché, pour rien. Eh bien, le Parlement européen a refusé de ratifier cet accord, qui était un accord tellement déséquilibré. Ils ont repoussé la décision. La décision, tenez-vous bien, devait être prise aujourd'hui. Eh bien, compte tenu de l'incertitude absolue et du fait qu'on a changé, encore une fois, de régime, grâce au Parlement européen, eh bien, on n'a pas cédé. Et au fond, on rentre maintenant dans une nouvelle phase de cette nouvelle normalité, vous voyez, je mets des guillemets, donc par rapport aux négociations. Il faut encore une fois remercier le Parlement.
Est-ce que ça veut dire que les dirigeants, de la Commission européenne avaient en quelque sorte trahi?
Eh bien, en tout cas, ils sont encadrés. Il faut jamais qu'ils l'oublient. Ils sont encadrés par le Parlement, ils sont encadrés par le Conseil. Eh bien, le Parlement européen, et notamment, a décidé de dire on peut pas ratifier cet accord, et donc ils ont repoussé la décision. Ils ont bien fait. On rentre maintenant dans une nouvelle phase. Alors cette nouvelle phase, il va falloir rediscuter, mais c'est une phase qui est encadrée désormais par le droit, et dans le droit des relations internationales, y compris commerciales, on peut plus faire n'importe quoi. On peut plus non plus accepter, en tout cas la Cour suprême vient de l'interdire au président des États-Unis
de faire n'importe quoi.
Je vais vous faire un port de force parce que
et
vous
d'en faire une arme. Vous avez peut-être vu cette information. Je vous en parle parce que précisément vous évoquez Ursula von der Leyen. Ce sont mes confrères de Politico qui ont révélé qu'un appel d'offres avait été lancé par la Commission européenne pour augmenter de 50% le budget des jets privés des dirigeants de l'Union européenne. Ça vous paraît le bon moment, ça?
Non, ça ne me paraît pas le bon moment. Il faut donner l'exemple. Chacun doit donner l'exemple. Et j'estime qu'effectivement...
Vous-même, vous preniez beaucoup de jets privés quand vous étiez commissaire européen?
Eh bien, quand je les prenais, c'est moi qui les payais.
C'est vous qui les payez?
Absolument.
Vous avez fait des déplacements professionnels?
J'ai fait des déplacements et je les ai payés moi-même. Je n'ai jamais voulu que la Commission paye quoi que ce soit. Notamment quand je m'occupais des vaccins.
Quand vous vous occupiez des vaccins, vous avez réglé vous-même?
Absolument.
Avec votre argent personnel.
Mon argent, je n'ai jamais voulu solliciter, c'est normal, et je n'en tire aucune gloire.
Quand il fallait utiliser les jets privés,
Parce qu'il n'y avait pas de solution, parce que l'espace aérien était fermé pour les vaccins.
Alors c'est d'autant plus intéressant, Thierry Breton, qu'effectivement c'est un exemple qui est pointé par la Commission européenne, qui dit on a besoin de davantage de jets privés parce que regardez quand il y a eu le Covid, il y avait des avions qui marchaient pas, parce que évidemment les complications aujourd'hui de l'espace aérien avec le après ça pose quand même un problème, Thierry Breton, c'est que peut-être vous aviez les moyens vous de le faire.
Et bien,
si vous n'aviez pas eu les moyens, est-ce que ça veut dire que certaines des décisions cruciales qui ont dû être prises pour les vaccins n'auraient pas eu lieu?
Madame Apolline de Malherbe, il y a un budget pour ça. Eh bien, dans ces conditions, j'aurais sollicité le budget, je n'ai pas voulu le faire. Pour des raisons, encore une fois, qui m'appartiennent.
En tout cas, ça n'est pas le moment de demander 50% de plus. Une question aussi sur cette harmonie européenne, ou cette fragilité, justement. L'Ukraine, 4 ans de guerre, et il n'y a pas eu d'accord sur des nouvelles sanctions contre la Russie, parce qu'il y a le veto hongrois. C'est un revers. Voilà ce que dit notamment la France et les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Nous n'avons pas les moyens de passer outre. Nous sommes bloqués par ce veto.
Non, on en est encore une fois au 20e paquet de sanctions. On le sait, on en a passé 19. Donc moi j'ai confiance, on va le passer, ce paquet, le 20e. Mais on sait que évidemment, là encore, et on en revient au début de notre discussion à Pauline de Malherbe, il y a en Europe certains pays qui sont, on le sait, anti-européens, c'est clair, en tout cas qui anti-institutions européennes, et donc il faut savoir les gérer. On parle évidemment de la Hongrie, on peut parler aussi de la Slovaquie avec Robert Fico. Hein. Par parenthèse, ce sont les deux seuls dirigeants que le secrétaire d'État, donc Marco Rubio, est venu saluer lorsqu'il est venu la semaine dernière, il y a 10 jours.
On en revient à ce que vous dites sur la volonté d'affaiblir les institutions européennes.
On en revient encore une fois. Ce sont ceux qui sont donc les alliés également, les alliés donc désignés par l'administration Trump en Europe pour affaiblir l'Europe. Voilà.
Pardon, mais encore une fois, qu'on en tienne compte. Toujours une question, c'est pourquoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt des Américains dans une situation mondiale où ils ont face à eux la Russie, la Chine, d'affaiblir ceux qui sont leurs amis?
Mais Madame de Malherbe, parce qu'encore une fois, l'histoire nous apprend que évidemment, qui mène les guerres aujourd'hui ou qui est dans ce contexte belligérant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et encore une fois, ils le font comme ils décident de vouloir le faire. Et puis on sait que derrière, il y a évidemment le rapport de force. Peut-être même conflit qui est en ligne de mire. Je parle évidemment entre les États-Unis et la Chine. Et qui doit financer ça? Évidemment, les vassaux. Nous sommes aujourd'hui vus par une grande partie des États-Unis, pas tous, encore une fois, mais notamment par, je dirais, cette dynamique MAGA dont on a parlé tout à l'heure, comme étant évidemment ceux qui doivent soutenir les vassaux. C'est fait pour quoi? C'est fait pour payer les guerres. Voilà. Donc, ou bien, vous savez, les électeurs en 2027 en France, ils vont avoir un choix assez simple. Hein. Ou bien on choisit de porter au pouvoir ceux qui favorisent cette dynamique enclenchée par les États-Unis, ou bien ils résistent. Voilà, les choses sont en train de devenir de plus en plus claires.
Pour vous, les questions de politique intérieure en France, il faudra aussi les regarder à l'aune de la question de la relation des États-Unis.
Mais regardez ce qui se passe dans le monde. C'est une évidence. À mon avis, ça va devenir l'un des critères les plus pertinents, les plus importants. Regardez du reste les sondages. Aujourd'hui, près de 60% des électeurs en Europe estiment que cette dynamique-là va à l'encontre de l'Europe et de leur propre pays. Eh bien, chez nous, c'est pareil en France. Voilà, les électeurs vont avoir le choix. Il va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure on va rentrer dans la campagne.
Avec ou contre les Américains et les alliés américains, c'est toujours nos alliés, vous le dites.
Bien sûr, ce sont toujours nos alliés, en particulier dans le cadre de l'OTAN, mais il faut continuer à leur parler. Mais vous savez, pour parler avec eux, et je le redis, moi je connais bien les États-Unis, j'aime ce pays, ben voilà, il faut savoir aussi exercer des rapports de force lorsqu'ils sont légitimes et qu'ils s'inscrivent dans le droit. Et nous, nous devons en permanence s'inscrire dans le droit.
Merci Thierry Breton, ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47, tiens un mot aussi pour vous dire que ce soir, la politique, le grand débat des municipales à Lyon, ce sera à suivre à 20h50 sur BFM TV.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Souvenez-vous, Vanessa Perret, procureur du parquet anti-criminalité organisée, était l'invité du face-à-face. Patrick Balkany a souhaité lui dire un mot. Patrick Balkany, tiens, vous voulez lui dire un mot, bonjour.
Eh bien, je dis bonjour Madame Perret, c'est Monsieur Levallois.
Oui.
Oh, écoutez, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Ben, c'est Apolline qui a commencé, hein, en vous disant, alors, vous n'aimez pas les pépitos? J'ai écouté attentivement votre interview, chère Apolline. Hein. Les narcotrafiquants qui se font quand même 50 000 d'euros par jour. Ça, t'as entendu, Isabelle? 50 000 euros quand même. Hein.
Oui, j'ai entendu. Tu vois, Patrick, on est vraiment des petits joueurs.
Ah ben, tu m'étonnes. Les gars, ils reviennent du Maroc avec des kilos de shit. Hein.
Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait en ramener plutôt que s'emmerder avec ton service à tagine.
Oh, Isa, t'es dur avec moi. Il est très bien, mon service à tagine.
50 000 euros par jour? Non. Mais t'imagines, mais faut qu'on arrête de frauder le fisc. Il y a beaucoup mieux à faire.
Et vous avez entendu, Madame la procureure, grâce à vous, avec Isabelle, on va arrêter de frauder le fisc.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci, Monsieur Balkany. Nicolas Dufourcuit, directeur général de BPI France, était mon invité ce matin dans le face-à-face. On est évidemment revenu sur le discours de Donald Trump à Davos et puis sur celui d'Emmanuel Macron.
Hey! Bonjour à tous et à toutes, ça va? Je vous impressionne.
C'est très impressionnant.
Oui, ben écoutez, j'y vois mal, alors je me relève. Non, ça vous impressionne pas trop avec mes lunettes de badass comme ça et mon charisme de biker tatoué?
C'est vrai que c'est très impressionnant.
Attends, attention, je crois qu'il y a Élise Dangean qui est en train de s'évanouir.
Ah. Elle est amoureuse.
Madame de Malherbe, chère Apolline, vous voulez toucher mes pectoraux?
Ça va aller, ça va aller.
Attention, parce que l'acier, c'est froid.
Ah, oui. Monsieur le Président, vous étiez donc du côté de Davos pour le Forum économique mondial. Le contexte, c'était très tendu. Comment ça se passe avec Donald Trump?
Mais écoutez, il passe son temps à me chambrer, me demander de le rejoindre dans son conseil de la paix. Mais vous iriez-vous dans un conseil de la paix quand la paix est assurée par Trump, par Poutine, Orban et Javier Milei, hein? Franchement, mais non, c'est un peu comme aller dans une jardinerie Michel Fourniret ou dans une crèche Véronique Courgeot, je dis. Non, merci.
Pour forcer les Européens à lui vendre le Groenland, Donald Trump a aussi annoncé une hausse des droits de douane. Et pour tenter de mettre fin à ce conflit, on appelle tout de suite Julien Courbet.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, bonjour à tous, c'est Julien Courbet, bonjour Apolline, bonjour à Thierry Breton qui est venu rejoindre ce studio, il est le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non pas au cas d'une personne, chère Apolline, mais carrément, puisque cette émission prend une grande dimension, nous allons nous intéresser carrément au cas du peuple, pardonnez-moi, groenlandais, qui ne souhaite pas vendre son pays, c'est notre dossier, il ne souhaite pas vendre son pays à un certain monsieur, je le prends ma fiche, Monsieur Trump, je crois, voilà. Donc nous allons, vous savez ce qu'on va faire, ma chère Apolline, nous allons tout de suite, en régie, appeler ce Monsieur voilà. Trump, on compose le numéro en régie.
Hello.
Oui, Monsieur Trump, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Julien Courbet, désolé, je vous appelle de la part de personnes qui se plaignent, il semble que vous voudriez acheter un pays qui n'est pas à vendre.
Ok, c'est pas grave, si je peux pas l'acheter alors je vais le voler. Si, comme le Venezuela, non. Et s'il y en a qui sont pas contents, je mets aussi des droits de douane. Du 200%.
Non, écoutez, attendez, Monsieur Trump, ne faites pas ça, Monsieur Trump. En plus, je vois sur ma fiche que vous êtes dans le commerce et j'ai un de vos petits fournisseurs, un certain Monsieur Macron, qui n'est pas content, qui ne voudrait plus vous vendre ses spécialités et produits du terroir.
Oui, je le connais, c'est Emmanuel. Je connais bien ces chic types, le Tom Cruise, Marc Repère. C'est pas grave s'il veut plus me vendre. Alors non, je me passerai de ces Twingo et de ces films chiants avec Vincent Lando. Et vous, de votre côté, faudra vous passer de Microsoft et de Google.
Non, 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 écoutez, monsieur Trump, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, surtout quand le vendeur ne veut plus de vous, ne veut pas
Fake
de vous.
News, tout s'achète. Même le Groenland. Regarde, Courbette. Mélania, elle était froide et elle voulait pas de moi, comme le Groenland. Eh ben, je l'ai acheté quand même.
Non, écoutez, on entend votre position, ça se défend, monsieur Trump. Mais on ne lâche pas le dossier, nous reviendrons vers vous, parce que vous connaissez, chère Apolline, cher Thierry, le slogan de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois.
Analyser l'information américaine au BDPA pour la On accueille notre militaire maison, hein, Vincent Moscato.
RMC, le super Moscato
Show. Putain, c'est dur ce matin, retour mastique. Compliqué ce matin, je suis fracassé. Tel que tu me vois, Olivier, allez, tu vois, Apolline, je me réveille, tu vois, je me réveille juste du réveillon. J'entends de partout Maduro, putain, je crois que c'était un joueur des îles Tonga, moi. Non. Apparemment, c'est le carrément le président des îles du Venezuela. Voilà, donc le film d'action, les Américains, ils débarquent, 100 avions de chasse, 30 hélicoptères, et ils font pas le voyage pour tu sais, ils sont pas venus juste pour boire l'eau des pâtes, tu vois, les Américains, tranquilles, ils rentrent dans le pays, sans sonner à la porte, tu vois, tranquille, ils arrivent, ils s'essuient carrément les pieds sur la moustache de Maduro. T'as vu la moustache du gosse? La moustache, putain, un scratch de 3 mètres d'épaisseur, gros. Un balai brosse qui aurait couché avec un sourcil de Lecornu. Sous les narines, il s'écroulait un purée mort, gros.
Donald Trump a déclaré qu'il s'occuperait désormais du pétrole vénézuélien.
Tranquille, gosse, comme à la maison, il prend le pétrole, il se sert, tu vois, c'est le costaud de la récré qui te pète la gueule pour manger ton Kinder Bueno, tu vois. Trump, c'est sa manière à lui de faire les courses, il va faire des forages de pétrole partout, ça va perforer dans tous les sens, tu vois, Trump, c'est Rocco Siffredi bourré de Viagra qu'on lâche dans une fabrique de gruyère, gros. Il va te faire plus de trous que de gruyère, gros, c'est un fromage. Attention, je préviens, la bête est lâchée, elle est blanche, la bête, qui reprendra ce lui aussi.
Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Grandes Gueules sont en direct de Lyon ce matin, deuxième étape de notre tournée spéciale municipale, avec autour de la table Emmanuel Devilliers, Bruno Poncet, notre cheminot, et puis Barbara Lefebvre. Venez nous voir au Palais de la Bourse à Lyon pour une émission spéciale municipale en direct de la capitale des Gaules.